notre la dernière fois et la première fois, c'est-à-dire l'avant-dernière fois, nous sommes partis de une sorte de dialogue entre ce qui était écrit, voire ce que dirait la porte de l'enfer, dans la comédie de Dante, la divine comédie de Dante. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Et puis, l'importance, effectivement, de l'espoir et d'espérance dans la vie de tout être parlant. C'est tellement important, l'espérance, que c'est effectivement une vertu. Et une vertu, plus que ça, théologale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui traduit le logos de Dieu. Avec la foi et la charité. Et puis que ça dure depuis un moment. Alors, la dernière fois, on est arrivé à ceci, à interroger une nouvelle fois l'existence, existere. C'est un mot qui date déjà. Mais il faut vraiment prendre la racine latine, puisque existere, effectivement, c'est du latin. D'ailleurs, vous avez regardé, il y a plein de latin partout ici. Là. Ce soir, j'ai écrit ça au tableau. Existere, ça veut dire effectivement se tenir, hein, se tenir ex, sans savoir si il est possible d'avoir accès à cette existence. Et j'en étais arrivé la dernière fois à proposer que il y a, alors c'est ce qu'on appelle le jugement d'existence en philosophie, il y a, voilà, il y a, pas le jugement d'attribution, c'est le jugement d'existence, il y a quelque chose, et là je ne m'inscris pas évidemment dans les connaissances philosophiques, là je sors immédiatement du jugement d'existence tel qu'il est formulé. Il y a une part du corps, c'est ça qui nous intéresse, il y a une part du corps qui, alors, ne deviendra jamais cadavre. Alors, je laisse de côté le corps qui n'est pas, évidemment, qui n'a pas été saisi par le langage, qui est le corps de l'animal, puisque le cadavre chez l'animal, vous savez que ça s'appelle la charogne. Donc, il y a une part du corps qui ne deviendra jamais cadavre, et ça pose une question que j'ai écrite. Là, Perindea, il m'est revenu ceci, cette citation, Perindea a cadaver, qui est assez intéressante parce que ça traduit, c'est ce qu'elle veut dire, ça traduit la dimension d'une espérance folle, mais pas au sens de la psychiatrie, hein, folle, qui s'est répandue chez les moines mystiques du 4e siècle. Qui se retirait dans les déserts, notamment en Égypte. Il y a un autre JC qui s'appelle Jean Cassien, qui est un moine, qui a commencé à se retirer en Égypte, et puis ensuite qui est venu dans le sud de la France, vous avez peut-être entendu parler. Or, périndé à cadavère, qui veut donc dire à la manière du cadavre, c'est la formulation qui était prise à ce moment-là, et qui persister, hein, pour rendre compte du troisième vœu que font les religieux, ceux qui font trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Et c'était tellement important, c'était l'obéissance totale, hein, l'obéissance ascétique totale. Et, par exemple, il était demandé, il avait été demandé, on dit que, il a été demandé à un de ses moines, justement, d'arroser tous les jours un morceau de bois mort, pour montrer qu'il n'y avait rien à comprendre, c'était une façon d'obéir au commandement divin, à l'amour divin, pour montrer là, le pouvoir que ça peut avoir. Ça n'a certainement pas tellement changé, hein. Il ne faut pas croire que c'est si simple que ça. On va dire un mot tout à l'heure, à partir de Saint-Augustin, Vene Bonum aliquid Saint-Augustin. Bon, pas d'un mot. Bon. Alors, donc, et vous voyez, ça pose une question par rapport à la dimension de l'inconscient, puisque l'inconscient existe du fait que Le corps, et donc, il en résulte que ce corps-là, j'ai essayé d'en dire un mot, c'est évidemment pas le corps de la médecine, de la psychologie, le corps de la science, pas ça, tout, hein, il en résulte que ce corps-là ne pourra jamais advenir comme cadavre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vœu particulier où il s'agit d'être comme un cadavre, d'obéir comme un cadavre. En plus, quand même, chez les sages, je les ai considérés comme des sages du moment, hein, au 4e, 5e siècle, et ça s'est développé, et je vais vite, hein, parce que je voudrais parler d'autre chose, on va retrouver ça après le Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est au 16e siècle, c'est 1550 à peu près, ça a duré une vingtaine d'années. Et le concile, c'est quand on rassemblait tous les cardinaux pour prendre position. Alors pourquoi il y a eu le concile de Trente? Ben c'est simple, c'est parce que il y avait le protestantisme qui se développait et il fallait absolument légiférer pour définir quelque chose. Donc, ce qui a été défini, dans ce, notamment, entre autres, dans ce concile de Trente, c'est que ce qui vient à la suite du Concile de Trente, c'est l'expérience d'un religieux qui vient d'Espagne, Ignace de Loyola, et qui va aller à Rome proposer de fonder un groupe, une congrégation, hein, qui s'appelle venir les Jésuites. Alors, les Jésuites ont un quatrième vœu particulier, c'est toujours l'obéissance, mais c'est pas l'obéissance ascétique. C'est l'obéissance apostolique. Alors, apostolique, en grec, hein, c'est tout ce qui... Vous savez que c'est l'Église romaine, catholique, apostolique et romaine, hein, c'est ce qui est défini. Hein. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va concerner le fait d'aller témoigner et évangéliser et bien, tous les apostats. Hein, c'est-à-dire que c'est justement, on ne croit pas. Bon. Alors, il y a une donc... un deuxième type d'obéissance chez les jésuites, qui est l'obéissance apostolique, c'est-à-dire l'obéissance au pape. À ceci près que Ignace de Loyola lui-même va refuser d'obéir au pape à certains moments. Alors, la compagnie, ça s'appelle la compagnie de Jésus, c'est pas rien, la compagnie c'est une armée, c'est l'armée du pape. Et après le Concile de Trente, donc vous voyez, l'apparition, enfin en 1517, Luther pose ses 100 arguments là sur la porte de l'église, j'ai oublié le nom, on va revenir tout à l'heure, bon ça se développe, etc. Normalement, Luther, il aurait dû être évidemment arrêté, exécuté, il y a le pouvoir qui est très fort, hein, le pouvoir religieux, le pouvoir civil, le pouvoir royal, c'est du même tabac, hein. Et en fait, il n'a pas été arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il déploie son action où il y a les princes allemands, et on ne peut pas trop toucher quand même aux princes allemands, donc il est protégé. C'est comme ça que, on va dire politiquement, entre autres, indépendamment des positions ou plus exactement du refus de certaines positions chrétiennes, hein, du christianisme, c'est comme ça que le protestantisme et le calvinisme vont se développer. Alors, on est placé ici parce qu'on est là, on est dans cette région-là. Entre autres ici, à Montbéliard, c'est quelque chose qui va se développer de façon intensive, vous savez ça très bien. Bon, ce que je voulais vous signaler, c'est que la dimension de l'obéissance, dans audire, il y a la question d'entendre. Audire en latin, c'est entendre. Qu'est-ce qu'on entend? On a posé la question de la voix. Qu'est-ce qu'on entend dans cette obéissance ascétique? C'est pas tellement qu'elle soit aveugle, c'est que il y a, je vais prendre une terminologie de Lacan, c'est qu'il y a un autre de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a, il y a un autre qui sait. Autrement dit, celui qu'on aime, c'est pas tellement l'autre qui sait, c'est le savoir de l'autre. Et là, on retombe sur la question du transfert. L'amour s'adresse au savoir. Alors, cette question de l'espérance, c'est un peu comme ça que je voulais lancer les choses, hein, donc le périndé, le cadavre, et puisque j'ai mis un peu en dessous, vous allez voir un peu, ceux qui ont fait du latin, ils savent que c'est une règle, hein, tout comme comme il finit, là, hein, c'est vocatif, hein. Je vais venir tout à l'heure, c'est ce que Jules César, qui était quand même un tyran, hein, au moment où il était assassiné, aux îles de Mars, il y a le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Hein, vous savez, il n'y a pas que lui, mais c'est Brutus, hein, hein, c'est passé dans le langage habituel. Qui, semblait-il, devait être le fils de sa maîtresse. Enfin, vous voyez un peu comment ça marche dans les familles, c'est quelque chose de pas très... Enfin, c'est quelque chose d'assez intéressant, finalement. Hein. Bon. Et voilà. Bon. Donc, la question du corps. Voilà. Je vais revenir un peu à ce que je disais la dernière fois, parce que, chacun d'entre nous, hein, on connaît bien le corps. Comment? Ben, par le fait de la dualité. La question du corps, ça s'inscrit dans la dualité, corps-âme, par exemple, hein. Et on est tous moulés dans cette question de la dualité, hein, les bons, les mauvais, on peut dire, hein. Accusés, coupables, innocents, enfin, en permanence, on est dans le dualisme, hein. Le grand chef du dualisme, c'est Manic, qui a fait le manichéisme, hein. De bien le mal, hein. On est toujours pris là-dedans et on pourrait penser, c'est-à-dire c'est la pensée qui pourrait nous dire que finalement le dualisme, c'est-à-dire la question du deux, écrivez-moi le comme on voudra, D-E-U-X ou D-U-X, hein, la question du deux est quelque chose de primordial. Le un, on ne sait pas trop, hein, le un, on ne sait pas trop, ça dépend parce qu'il y a différents types de un, il y a l'unique, hein, il y a l'unien. On ne sait pas trop, bon, ça va avec l'amour, en fait, finalement, le vin aussi, bien sûr, mais enfin, c'est un peu particulier, hein. Et la question qui s'est posée, qui se pose toujours, hein, là on arrive à Virgile, hein, bien sûr, Virgile, c'est juste avant Jésus-Christ aussi, hein, c'est que, entre autres, alors c'est pareil, l'histoire, c'est qu'il avait, quelques terrains, on lui a retiré, enfin, bon, bref, etc. Et vers les années 42 à 39, avant Jésus-Christ, un jour avant Jésus-Christ, il écrit les Bucoliques, et dans le chapitre 8, verset 75, il écrit ceci, « Numero Deus impare gaudet ».« Numero Deus impare gaudet ». Alors ce qui est étonnant, c'est que si vous lisez pas Luc de Gide, vous allez retrouver ça. Alors, bien sûr, comme toujours, le problème qui se pose, c'est comment on traduit. Comment on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a différents types de traduction, évidemment. Hein. Alors, il y a même un théologien qui a dit, ben, c'est facile, hein. Dieu, Deus, Gaudet se réjouit, numéro impare du nombre impair. Et quel est le premier nombre impair? C'est le 3. C'est la Trinité. Bon. Et Gide, lui, quand il écrit pas lui, il traduit ça comme ça, on pourrait dire comme de la musique, quoi. Numéro Deus impare gaudet, le numéro 2 se réjouit d'être impair. Ça passerait pas du tout au moment d'un examen, puisque c'est pas logique. Hein. Entre parenthèses, impare, si on fait numero impare, c'est aussi une faute, on va dire, de latin classique, puisque normalement, c'est l'ablative de impare, c'est impare. C'est pas impare. Bon. Ça montre que là, il y a quelque chose, justement, puisqu'il y a une faute, ce qu'on appelle une faute. C'est-à-dire qu'il y a un lapsus calamie, oui. Ou pas. Enfin, Virgile n'est pas là pour en rendre compte. C'est simplement ce qu'il nous transmet par ce biais-là. Et l'accorde dans son séminaire RSI, notamment le 15 avril 1975, prend ça et il redonne, alors il cite évidemment Gide et Palude, et lui, il dit qu'il a bien raison, effectivement. Il a bien raison de dire que le numéro 2 se réjouit d'être un père. Pourquoi ? Parce que le numéro 2 se réjouit de venir de l'impair, c'est-à-dire du 3. Et ça fait écho à ce que je vous disais la dernière fois sur la question de l'espérance, de la critique, de la raison pratique de Kant. Une des trois questions, hein, à ceci près que depuis la critique de la raison pratique de Kant, on dira. À Freud, il y a eu la découverte de l'inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire, la découverte de l'inconscient? Ça veut dire la subversion de la connaissance. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la connaissance, il en faut bien, mais de toute façon, ça ne permet pas du tout d'accéder, en tant que tel, à la dimension de l'inconscient. L'inconscient n'est pas de la connaissance. C'est un savoir. C'est autre chose. C'est la question du corps que je posais tout à l'heure. On y reviendra. Alors, ce 2, c'est pareil, on peut écrire, hein, D-E-U-X, ou D-apostrophe-U-X. Vous voyez que quand on parle sur un divan pendant des années et des années, c'est de ça dont on parle, ce D-apostrophe-U-X, tout en parlant aussi du 2. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce qui est attendu, c'est que quelque chose advienne de ce lieu insaisissable, que Lacan va nommer le réel, qui est le 3, l'impair. Vous voyez qu'on peut trouver, quand même, finalement, on peut trouver des traces comme ça, assez importantes, qui rendent compte, ben, finalement, de tous les entrelacs dans lesquels l'humain a eu à se débrouiller d'une façon ou d'une autre. Hein. Je remonte jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, mais je pense qu'on pourrait aussi revenir chez Aristote, etc., donc avant, chez les Grecs, bon, bref. Cette question-là est une question importante, et elle nous interroge, pourquoi? Parce que, effectivement, ce qui est attendu d'une psychanalyse, vous voyez, c'est-à-dire ce surgissement de quelque chose d'insaisissable qui ne s'appréciera qu'à ses effets, ce que Lacan va appeler non pas l'inconscient, mais le réel de l'inconscient, lui a montré les caractères insaisissables. Le réel, c'est ce qui fait 3. C'est pas le troisième. Il n'y a pas qu'il n'y a pas le symbolique, l'imaginaire et le réel, même si c'est dit comme ça. Il y a le fait que si le réel c'est troisième dimension, en quelque sorte, il est cette dimension de ce que il fait tenir le réel, le symbolique et l'imaginaire, il les fait trois. Il les fait trois. Et Lacan a beaucoup élaboré ça en manipulant une figure particulière qui présentait à ses séminaires, qui est donc le neuromère. Bon, je vais pas partir là-dessus parce que c'est pas tellement ce que je voudrais aborder aujourd'hui. Bon, je retiens donc ceci. Je retiens avec vous ceci, le fait que si le numéro 2 se réjouit d'être impair, se réjouit de provenir de l'impair, ça nous interroge radicalement. Qu'est-ce qui se passe entre un homme et une femme? Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est ça. Ce qui se passe quand quelqu'un vient parler, ben, immédiatement ça débouche là-dessus. Quoi. Hein? Évidemment. C'est logique. Hein? Alors, ça démarre par le papa, la maman, pourquoi pas, mais de toute façon, on va arriver à ça, et puis c'est tout à fait souhaitable, et puis ça fait partie, effectivement, d'après ce que je vous cite comme référence. Bon, alors qu'est-ce que c'est que Lacan? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, quand Lacan arrive à cette histoire-là, c'est à cette date de séminaire, entre autres, il en a déjà parlé avant, il dit, ben voilà, moi c'est pour ça que ce que j'ai proposé, l'amour, il n'y a pas d'un côté l'amour et de l'autre côté la haine, hein. Voilà le 2, hein, le 2, hein, qui est du 1 plus 1 d'une certaine manière, ben, c'est-à-dire qu'on fait du jeu. On fait volte-face, comme je le disais la dernière fois à propos de Saint Paul, hein, hein, on devient de persécuteur, on devient persécuté, c'est-à-dire qu'on fait du 180 degrés, hein, alors on n'est plus long, rien n'a changé, hein, absolument rien. Hein. Bon, d'une part, donc, est posée à ce moment-là une autre question, et pour en rendre compte, Lacan va fabriquer un néologisme. Il va parler d'énamoration. Énamoration. H-A-I-N-A-M-O-F-A-T-I-O-N. Mais ce qui est important, c'est que tout ça, c'est un mot d'esprit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de reprendre et de dire, ben, il y a haine, puis il y a la haine, et puis il y a l'amour, hein, l'énamoration. Hein. C'est que c'est un mot d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, comme nous l'ont bien décrit les tragédiens, Racine, ça, Corneille, etc., il n'y a pas d'amour sans haine, bon, ça, mais tout ça, pas d'amour sans haine, hein, ça n'en dit pas bien, ça dit pas grand-chose, finalement. Hein. Ça peut rendre compte un petit peu de ce qu'on appelle la jalousie, toutes sortes de choses comme ça, mais on est toujours un peu dans la psychologie, là. L'énamoration, telle que Lacan le propose comme un jeu de mots, ça montre bien qu'il y a quelque chose dans ce néologisme, quelque chose dans la langue, là, ici présentifié, qui ne peut pas se dire avec des mots. Il ne suffit pas de dire que c'est indicible. Alors qu'est-ce que c'est que l'énamoration? Est-ce que c'est comme le dit saint Augustin, que l'amour, pour lui, tel qu'il le propose, et qu'il savait un peu de quoi il parlait, parce qu'il avait une expérience de tout ça, hein, dans sa jeunesse, est-ce que l'amour c'est velle bono malicui, vouloir le bien à l'autre, vouloir le bien de l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que le bonum là? Qu'est-ce que c'est que le bien de l'autre? C'est ça qui n'est pas interrogé. Dans l'esprit de saint Augustin, c'est le souverain bien. C'est le souverain bien là, c'est la vie éternelle. Est-ce que l'amour c'est vouloir le bien de l'autre? Pas sûr. Pas si sûr. Peut-être un peu, oui, quand même. Si c'est le bien au sens du principe de plaisir, c'est-à-dire l'homéostasie, hein, c'est comme ça que tout le monde soit bien endormi, hein, Voilà, on n'a pas grand-chose à se dire dans ces cas-là. Hein. Ça doit être quand même un peu autre chose. Hein. Alors, l'élaboration, l'intérêt, c'est que ça traduit le fait que dans cette rencontre de la haine et de l'amour, puisque on est bien d'accord, il n'y a pas d'amour sans haine, ça c'est vrai, hein. Mais il faut aller un peu plus loin. Hein. L'élaboration, on pourrait dire que c'est une limite particulière, c'est une limite qui n'a. Et si c'est une limite, c'est ni l'amour ni la haine. Justement, ce ne serait pas une limite. C'est quelque chose qui, en quelque sorte, les nous, même pas les joints, les nous, de façon particulière, une sorte d'arrêt, si vous voulez, hein, à partir de laquelle quelque chose d'autre peut arriver, peut advenir, qui ne soit plus l'amour ou la haine, ou l'amour et la haine. Alors, est-ce que c'est quelque chose, du coup, qu'on peut comme ça acquérir et puis garder maintenant, justement. Hein? C'est un savoir, l'amour c'est un savoir, hein? C'est ça que va apporter la dimension de la conscience, je dirais même pas la psychanalyse, parce que ça devient, je pense, un peu trop vulgarisé au sens de ce que ça veut dire. Hein? Parlons de la conscience, en sachant que c'est quelque chose d'insaisissable, hein? Eh bien, cette limite particulière, c'est ce qui peut être produit du fait de parler dans une expérience particulière, qui est l'expérience du transfert, telle qu'elle peut se dérouler autant que faire se peut. Avec celui qui est un supposé analyste. Donc c'est ça qui est en jeu. Vous voyez que l'amour, du coup, ça nous arrache complètement au deux, qui est quoi le deux? Ben, c'est le narcissisme. Hein. C'est-à-dire que l'autre est mon image. Le deux, c'est ça. L'autre est mon image, et quand je parle de l'autre, je me méconnais, c'est-à-dire je me méconnais, c'est-à-dire que c'est de moi que je parle. C'est pour ça que Lacan a différencié le petit autre, hein, le petit a, mais pas le petit a comme objet, le autre écrit avec un petit a, et puis l'autre écrit avec un grand a, qui est à ce moment-là une chose, l'altérité. Donc, cette question qui est au cœur du transfert, qui est la question de l'amour, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui, même si ça fusionne et ça confusionne de sentiments, hein. C'est pas une histoire de sentiments, en fait, même si il y aura des sentiments comme effet. Effet de quoi? Effet de quelque chose dont il est difficile de parler comme ça simplement, qui est un effet de signifiant. C'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec. C'est pas l'histoire de chacun, hein. La psychologie, il va dire que c'est l'histoire de chacun, parce qu'il faut bien qu'on arrive un peu à penser, hein. Si on subvertit beaucoup de choses, hein, dans cette affaire-là, hein. Il faut bien qu'on arrive un peu à penser, hein. C'est plutôt le fait qu'il y a quelque chose, effectivement, qui, non seulement ne peut pas être pensé, c'est-à-dire être impensable, mais qui, s'il peut surgir, c'est la limite, hein, c'est ça l'énamoration. Hein, hein, pour s'arracher l'idée que l'énamoration, c'est une histoire d'amour et de haine. Hein, c'est la rencontre de l'amour et de haine. Non. Le nouage, c'est pas la rencontre, c'est bien plus compliqué. Le nouage, noué, c'est tisser, c'est filer, c'est autre chose. Hein, c'est pas uniquement juxtaposé. Hein, non. Donc c'est quand même autre chose. Hein. C'est ce qui se passe effectivement dans le transfert où les mots vont revenir, vont s'user parce que les mots sont porteurs de signification. Mais l'important c'est que ça arrive, non pas à son terme, mais ça arrive à produire quelque chose. Et là, on peut faire appel à qui? Ben, à Karl Marx, c'est-à-dire au capital, c'est-à-dire à la plus-value. C'est-à-dire à ce plus qui est produit par le travail et dont il faut rendre, dont il faut demander des comptes, non pas au patron, ce qu'on voudra, mais au producteur. La façon dont Lacan reprend l'analyse du capital est complètement, alors c'est logique, subversive, hein, ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est automatiquement subversif. Hein. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le producteur, pour autant que le producteur, il va élaborer la dimension de la jouissance, c'est-à-dire du plus de jouir. Et là, ça nous ramène à la question du corps, à savoir que, moi je suis bien placé pour en parler, puisque c'est ma trajectoire, mais vous aussi, sans doute, hein. Ah ben, c'est ce que je disais la dernière fois, pourquoi quand on va voir un psychanalyste, peut-être plus maintenant, parce que c'est plus pareil, pourquoi il peut nous dire, ben, faites médecine. Je pose la question, hein, quand j'en ai parlé à Israël, bon, je suis allé voir quand j'étais psycho à Paris, hein, il y a bientôt 50 ans, il me dit, ben, allez-y, faites médecine, puis vous revenez me voir après. Et puis quand j'en ai parlé un jour à Israël, à Strasbourg, là, il m'a dit, Lacan, vous avez dit exactement pareil. Sur deux, je me demande si Lacan va dire la même chose à Israël. Quoi. Pourquoi? Ben, je crois qu'il faut scoltiner, le savoir, c'est tout. Il faut aller à fond dans l'histoire du dualisme, de l'âme et du corps, de tout ça. Il faut y aller, il faut patauger là-dedans. Il faut patauger, c'est ça, c'est clair. C'est clair que, et puis après, il y a des petits bouts, des petits morceaux qui vont rester. Et puis c'est tout ce qui va rester, des petits morceaux, hein, des petits bouts de réel. Il va rester de la science des petits morceaux, comme ça, qui vont surgir. C'est ce qui m'anime, par exemple, pour maintenant, sans doute, hein, des petits trucs, comme ça, qui restent. Hein. Et tout le reste, pourquoi hein. Ce qui fait qu'un jour, je vais passer l'internat à Dijon, ben, c'est Dieu, ça, et puis je m'en vais casser complètement la figure, parce que je suis un tête à queue, du coup... je vais passer l'internat, il y a une question sur qui c'était le cancer du rein que je sais parfaitement. Étonnamment, quand j'ai mes notes, j'ai un sur moi. Quelle connerie j'ai pu mettre? C'est quand même pas rien, ce genre de truc. Hein. Bon. Tout ça pour dire qu'il faut scoltiner les choses, le savoir, mais le savoir de connaissance, la médecine, c'est du savoir de connaissance. Hein. La psychologie, c'est pareil. Tout le savoir, ce qu'on appelle le savoir habituellement, et il y a effectivement, et c'est là que c'est autre chose, depuis que Freud a bafouillé, comme tout le monde, hein, a bafouillé autour de cette question de l'inconscient, il y a un autre type de savoir. On pourrait dire que même il y a vraiment, et vraiment poser la question du savoir. Et c'est autour de ça, que se pose pour nous la dimension de la vie. Alors je vais essayer de dire un mot, parce qu'on a toujours en contrepartie, et bien sûr, la question de la voix de l'inconscient, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que parler de l'inconscient, je n'ai pas parlé de la voix, là. Et je vais m'arrêter sur ceci, qui va permettre peut-être, qui a opéré peut-être un petit peu d'avancer sur la question de la jouissance. Ce dont ne prend pas en compte la médecine, et il ne faut pas lui demander de prendre en compte, c'est le corps, c'est la dimension de la jouissance du corps. Je m'entends, je ne parle pas du plaisir, au sens du plaisir, qu'on appelle comme ça, génital ou sexuel. Hein. Encore que, ça peut avoir un rapport, mais de toute façon, hein, c'est... Lacan, il ne fait pas lier les choses. Hein. De toute façon, l'homme ne jouit pas de la femme, il jouit de l'organe. Ça, c'est la jouissance solide. C'est simple, hein. Il croit qu'il jouit de la femme, il ne faut pas jouer de la femme. C'est une femme qui demande à un homme de le faire jouir, c'est simple, c'est celle qui n'existe pas, voilà, c'est la femme qui n'existe pas. Bon. C'est rapide, mais existence au sens où je vous en parle, hein. Elle a bien de l'être, hein, mais pas de l'existence. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la femme? À ce moment-là, si la femme n'existe pas, il va s'en sortir par une autre formulation, hein, qui est non pas la femme, mais une femme. Et bien, une femme, ça peut se produire dans le discours, dans l'expérience de discours, et ça renvoie à un certain type de jouissance particulier, ce qui veut dire que chacun d'entre nous, alors on peut dire déchiré, je crois que ça peut être déchiré, hein, il faudrait trouver aussi un néologisme là, comme l'énamoration, entre ces deux types de jouissance, qu'on appelle la jouissance phallique, qu'on soit sous la bannière homme ou femme, hein, faut pas croire que, hein, c'est ce qu'on voit qui différencie un homme et une femme, bien sûr, ça c'est le fantasme, hein, donc vous avez bien besoin de ça, Dieu sait, hein, pour soutenir un peu ce qu'on appelle le désir, la dimension du fantasme. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de la différence sexuelle qu'on pense tout d'un coup qui est. Alors vous savez que au niveau des chromosomes, hein, eh bien on retrouve l'histoire de Virgile. Hein. Il y a la différence sexuelle, elle s'établit sur quoi? Sur le fait qu'il y a des gènes qui sont homozygotes, XX, c'est-à-dire que il y en a deux qui font la paire. C'est l'identique qui font la paire. C'est le 2. Et puis, il y a des gènes qui ne font pas la paire. C'est les hétérozygotes, c'est XY. Et la différence, on pourrait dire que la différence sexuelle, elle est inscrite là. Là, à cet endroit-là, pour la science. Mais évidemment, nous, on est tous pris dans des trucs, tous. Hein. Et puis c'est pas à rejeter comme ça, les dimensions du fantasme. Hein. Qui fait que, comme Thomas, on croit ce qu'on voit. Quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que la différence des sexes chez les êtres, on va dire, humains, ou être parents, elle est beaucoup plus différente, c'est-à-dire que la différence entre un homme et une femme, on va dire comme ça, visuellement, elle est beaucoup plus grande que chez les animaux en général. Les animaux, un certain nombre d'animaux, c'est pas si évident que ça de savoir quel est le mâle et quelle est la femelle. Hein. Alors que chez les humains, en principe, bon. Ça ne veut pas dire que ça soit vrai. C'est ça que je suis en train de me dire. La vérité, ça c'est une drôle d'affaire. Hein. Bon, donc nous sommes déchirés, partagés entre une part féminine, pour finir ce que j'ai à dire aujourd'hui, là, et une part féminine, et c'est ce qu'on fait dès qu'on se lance dans la création, dans quelque chose, ben on part par cette dimension de la jouissance phallique. Hein. Alors, c'est qui? Ben c'est les sportifs qui jouissent de manipuler leur corps, tout ce que vous voulez, etc. Moi, c'est ce que je fais quand je fais des vocalises. Hein. Pareil, il faut apprendre à respirer, etc. Ça, c'est la jouissance phallique. C'est que ça peut se contrôler, se dominer, se maîtriser, etc. Puis, il y a une autre jouissance. Alors là, ça c'est une vraie question que, à mon avis, qui ne peut pas. Hein, vous savez, les scientifiques, ils ont trouvé, hein, c'est les endomorphines. Mais c'est pas de ça dont je parle. Hein. Parce que les endomorphines, ça ramène à la jouissance phallique, hein, de toute façon. Il y a un autre type de jouissance qui est lié au fait de parler. C'est là-dessus que ça s'appuie toute expérience du transfert à la psychanalyse. Hein, l'expérience de parler, donc de chanter, évidemment. C'est-à-dire le fait de quoi? D'être, d'avoir été et d'être toujours pris par la dimension du langage. C'est ça qui fait que, justement, le corps parlant ne pourra jamais être le cadavre. Le cadavre, c'est autre chose. Il n'y a une part. L'humain qu'on peut retrouver sur un nom qui restera quelque part, sur une stèle, sur une cartouche chez les Égyptiens, ou sur une tombe, etc. Il y a quelque chose là, et tout ça pour montrer à quel point la vie, finalement, elle dépend de presque rien du tout. Le destin est tracé. On a un destin qui est tracé parce qu'on a dû prendre sur soi on ne sait pas quoi d'ailleurs, mais enfin quelque chose qui va se dérouler progressivement dans l'expérience du transfert. Et jusqu'à ce qu'à un moment il y ait quelque chose qui fasse, comme je le disais la dernière fois, c'est que il y a quelque chose qui fourche, il y a quelque chose qui sort de travers. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'entend. ça s'entend, le lapsus, et je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Voilà.